Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
Il est 20h10 sur RMC, c'est la nuit de l'after qui démarre, l'after live intégrale Coupe du Monde après un match complètement fou et des émotions de dingue dans ce Argentine-Égypte. Flo Gautreau et Daniel Riolo sont là avec nous, salut les gars.
Bonsoir les amis.
On s'est régalé.
Ben, je ne suis pas encore totalement remis là.
Non mais là vraiment,
c'est incroyable le match. Et c'est vrai que je disais que les deux, Argentine-Cap-Vert et Argentine-Égypte, je m'attendais à pas grand chose. Enfin toi tu te dis, ils ont il y a trop d'écart. Et pas du tout, en fait il se passait des scénarios dingo à l'issue desquels on pensait les Argentins en gros bouillis, cramés.
On les a vus dehors contre le Cap-Vert, on les a revus dehors là, peut-être encore plus dehors là, parce qu'à 2-0.
Plus dehors là, 80, il restait quoi, un quart d'heure avec les arrêts de jeu.
Plus les arrêts de jeu, c'était long quand même.
Non, mais d'accord, mais 2-0. Si on les voit pas dehors là, on les verra jamais dehors.
Moi je les ai vus dans le corbillard.
Ils ont trouvé le moyen de ne pas aller jusqu'à la prolongue, mais de gagner le match.
Moi Daniel, je les ai vus dans le cercueil et ils ont relevé la, tu sais, la planche qui est au-dessus de toi, quoi. Ils sont ressortis du cercueil.
Avant que le dernier clou soit planté. Pour parler de l'Argentine, évidemment, nous faisons appel à Georges Quirino, salut Georges.
Salut les amis, Georges. Bonsoir à tous.
Ça va, t'es soulagé? L'Argentine est soulagée, on va dire.
Non mais là, l'Argentine ne peut même pas y croire. Voilà, l'Argentine ne sera pas dans l'analyse du jeu aujourd'hui. Même les commentateurs l'ont dit à la télévision il y a quelques instants. Ce sera juste la gestion de l'émotion, exactement, aujourd'hui.
Alors après, moi je ne les ai pas trouvés si catastrophiques que ça, hein, les Argentins. Je pense qu'il y a un scénario quand même qui est ultra favorable à l'Égypte. Parce que la première mi-temps, s'ils en sortent à 3-0, il n'y a rien à dire. Hein.
On peut effectivement découper le match et voir dans ce match des séquences où les Argentins ne produisent pas grand-chose, où ils ronronnent. Mais si tu prends la globalité et tu regardes les stats, la victoire est largement méritée. En nombre d'occasions, que ce soit occasion nette ou XG, en possession, le nombre de passes, tout. Il se trouve que le scénar donne ce sentiment-là.
Exactement,
que l'Égypte était tout près.
Ils ont été tout près de
l'exploit. Mais en marquant assez vite, sur une action un peu improbable, inattendue en tout cas. N'oublions pas ce virage important, le péno raté par Messi. J'ai vu la tête de Messi à ce moment-là, je me suis dit, il n'est pas dans un grand soir. Et je pense que 70 minutes, il n'a pas été bon. Mais
il a quand même été mauvais.
Il est phénoménal. Pour au final être encore une fois le héros.
Il a fait Mbappé en finale côté français de France-Argentine. Il est absent de la même façon et finit de la même façon.
C'est la même chose parce que c'est toute la France qui n'était pas bonne en finale en 2022.
Ouais, mais Mbappé particulièrement absent aussi.
On va prendre le temps, bien sûr, de tout dire sur cette rencontre et la qualification de l'Argentine. Mais je vous rappelle aussi qu'à 22h, c'est Suisse-Colombie. Donc le vainqueur affrontera l'Argentine en quart de finale. Et puis c'est une émission assez exceptionnelle parce que nous avons deux champions du monde invités entre 21h et 22h, Patrick Vieira et Fabio Cannavaro. Donc évidemment,
tu sais qu'avec les émotions du match, j'avais complètement oublié ce casting qu'on avait tout à l'heure.
Écoute, ça tombe plutôt bien quand même. Ils pourront nous donner leur regard sur ce incroyable Argentine-Égypte et cette qualif de l'Argentine. Je ne sais pas, Georges, si tu as déjà eu le temps d'aller jeter un œil sur ce qu'il se dit sur les sites argentins de référence.
Non mais déjà je peux te dire que Lionel Scaloni, on va peut-être entendre tout à l'heure, est venu au micro du diffuseur argentin juste après le match. Il a pas pu parler.
Oui.
Voilà, il est arrivé au micro, il a dit désolé, je suis trop ému. Ce groupe de joueurs, les amis, c'était tout. Je peux pas parler, je dois partir. Il est parti en larmes, en sanglots. Lionel Scaloni après son interview, un peu comme Messi qui actuellement est toujours en larmes sur le terrain. Qu'est-ce que je peux dire à la une des journaux Estamos vivos, nous sommes vivants. La épica, c'est quelque chose d'épique qui est arrivé aujourd'hui. Globalement, c'est tout. Hein. C'est même les spécialistes à l'antenne à l'issue du match. C'était mission impossible. On était mort, le monde entier nous voyait mort, et puis le numéro 10 qui n'a pas été bon, hein. Les Argentins sont assez lucides sur le match de Messi, hein, avant la fin du match. Et ben à un moment donné, le numéro 10 est apparu et a permis d'égaliser. Donc voilà, en gros c'est l'émotion ce soir, et c'est vrai que c'est un sentiment comme nous on a en France, mais encore plus, vous l'imaginez, puissance 1 million en Argentine, d'avoir l'impression d'être finalement d'avoir une victoire tellement argentine, j'ai envie de vous dire. C'est tellement argentin comme
toujours le concept
de
la souffrance.
Il faut savoir souffrir. Voilà, exactement.
Après,
sans souffrance, il n'y a pas de victoire en Argentine.
Alors ça c'est OK, on le sait, ils sont là-dessus incroyables. Messi est incroyable, on lui demandait l'impossible et il l'a fait, mais je me pose quand même la question en essayant d'être lucide, ce qu'on va pas être, parce que comme disait Daniel, on est encore dans l'émotion, on se dit c'est incroyable, ils ont, tu sais, on dit ça pour la chance des champions, ils vont aller au bout avec ce truc. Moi je reste juste sur le parcours et sur les adversaires qui sont, vous l'avez dit, quand même plus faibles. Là techniquement l'Égypte c'était beaucoup plus faible, tu as dit les stats Daniel, 16 occasions à 4, 19 tirs à 5, ok. Je dis juste que cette équipe que je vois cramée, fatiguée, pour moi c'est un élément capital pour aller au bout.
Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller au bout?
Voilà. Moi je me demande, je veux dire aujourd'hui, je prends un risque, je pense, et je les voyais presque menacés même avant ce match contre l'Égypte à cause de ça, et je les vois toujours menacés à cause de ça. J'écoutais Omar Da Fonseca en parler, ils sont fatigués, beaucoup sont bouillis et très fatigués, et aller au bout aujourd'hui à mon avis, ça,
le
ça
prochain
compte,
match
quoi.
Ça va être le vainqueur de
Suisse Colombie,
c'est là de Suisse Colombie,
de manger la Colombie. Ouais non mais là on parle d'aller au bout,
ça va
tu
être
vois.
Encore bon. Une baston Suda, mais
moi, j'ai du mal à penser,
ils se connaissent par cœur,
et si tu veux,
les Colombiens vont arriver, si c'est eux, avec le complexe d'infériorité de jouer
ouais,
l'Argentine,
mais t'as vu les complexes, moi je dis juste que ce qu'ont montré le Cap-Vert et l'Égypte avec leurs limites, c'est que cette Argentine là on peut lui mettre des buts et on peut la contester. Je dis simplement pour rester froid que je reste sur le fait que physiquement, pour aller au bout du bout, c'est-à-dire pour aller faire le back-to-back, j'ai du mal à croire que cette équipe-là puisse le faire. Maintenant, je me trompe peut-être. Non, parce que c'est bien de dire juste, ils vont le faire parce que c'est leur grinta, c'est leur mental.
Non, au bout d'un moment,
il y a d'autres raisons. Tu peux avoir d'autres raisons de le penser, Georges.
L'état physique des joueurs argentins, c'était une problématique au début de la compétition, hein, puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés blessés. Julian Alvarez qui avait une entorse à la cheville qui arrivait sans rythme. La même chose pour Cuti Romero. Messi, souvenez-vous, Messi était blessé avec l'Inter Miami juste avant, hein, on parlait aussi de est-ce que Rodrigo De Paul, qui vraiment depuis deux matchs est complètement à côté de ses pompes, hein, qui était le moteur de cette sélection il y a 4 ans et qui là n'arrive à rien enclencher, même Enzo Fernandez arrivait sans rythme. Mais finalement ce qu'on voit aujourd'hui, c'était ce qu'on craignait de l'Argentine au tout début de la compétition, qui a été un petit peu caché par les performances en phase de poule où ils ont réussi à faire la différence grâce à un énorme Messi, mais aujourd'hui est en train d'apparaître ce que les Argentins craignaient, et également aussi dans la succession de matchs pour Messi. Souvenez-vous, il a même joué 120 minutes du match contre le Cap-Vert, hein, ouais. Il y a 3 jours et demi, hein. Donc il y a aussi la question de comment il va réussir à enchaîner, et là ça va commencer véritablement à arriver.
Mais tu peux avoir d'autres arguments pour soutenir l'inverse, Flo. C'est que la dimension physique sera importante. Mais moi, les deux matchs que j'ai vus contre le Cap-Vert et l'Égypte se ressemblent un peu. C'est-à-dire que c'est assez miraculeux pour l'adversaire d'arriver où ils arrivent. Mmh. Le Cap-Vert avant la prolongation, où là, je suis d'accord.
Le Cap-Vert,
la dimension physique,
il a fallu qu'un joueur
a failli. Exactement. Tout leur a réussi au Cap-Vert,
oui,
jusqu'à la prolongation.
Tu vas jouer en contre.
Et là, c'est un peu la même chose ce soir.
Non, mais toutes les équipes, si ils jouent la Colombie, c'est pas une équipe qui va les attendre le cul dans la surface comme l'Égypte.
Je dis simplement que cette équipe-là, cette histoire Netflix qu'on est en train de vivre dans cette Coupe du Monde hollywoodienne, elle est très intéressante et elle est fabuleuse. Je dis juste, regardez les adversaires, Algérie, Jordanie, Cap-Vert, Égypte. Je prends volontairement.
Mais si tu vas par là, tu dis Paris de la France. Alors.
Non, bien sûr.
Tu dis Paris de la France.
Un peu tout le monde en fait.
Quand t'as joué le Sénégal à l'époque, on disait pas la même chose par rapport à ces équipes-là.
Vu ce qui est ressorti, tu sais très bien que t'as joué personne également.
Non, mais
c'est pareil.
Je suis d'accord. Je te dis juste que par rapport à ce qu'a dit Georges sur l'état physique des Argentins, dès le début de la Coupe du Monde, est-ce qu'on voit là? Je te dis que ça s'est passé aussi, et vous dites la même chose en disant que les adversaires effectivement avaient des lacunes et qu'ils ont mené parfois miraculeusement. C'est passé aussi parce que les adversaire n'était pas très fort. Et je dis simplement
mais
que...
Mais avec qui il est fort?
Ah, moi, je te dis que la Colombie, c'est beaucoup plus fort que tout ce que je viens de te citer. C'est au-dessus, mais deux étages au-dessus.
Oui. Bah, c'est plus fort, oui.
Ouais, voilà,
mais
c'est tout.
Tu signes, demain tu mets ta maison, la Colombie élimine l'Argentine.
Moi, je mettais déjà un peu un truc genre prolonge contre les Gilles.
Georges, la finale de la Copa América.
La Colombie élimine l'Argentine.
La finale de la Copa América est allée jusqu'en prolongation.
C'était quoi la Suisse?
La Colombie, elle n'a pas gagné contre la Suisse, déjà.
Je suis d'accord.
Alors, la Suisse, c'est sans Mozambi, donc ça sera plus compliqué.
Voilà, déjà.
Non, mais juste un mot sur cette finale. C'était il y a un an ou il y a deux ans, je me souviens. Plus,
c'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans.
Et ouais. Le rapport de force était équilibré, mais à la fin, ça bascule du côté argentin.
Le rapport de force était équilibré. Exactement, ça avait été très serré, c'était allé jusqu'au tir au but, en prolongation, Messi s'était blessé, souvenez-vous, il était sorti en pleurs, il pensait que c'était peut-être son dernier match, et c'est Lautaro Martinez qui avait fait la différence. Mais attention, à la Colombie, c'est une équipe qui a accroché l'Argentine même récemment en phase de poule, en qualification pour la Coupe du monde. Donc en fait la grande problématique, et même en Argentine, ils sont quand même assez lucides sur le niveau de l'Argentine, c'est que il y a plein de joueurs qui sont pas au niveau actuellement, hein. Enfin, Enzo Fernandez
par exemple, il est
Enzo Fernandez, Julian Alvarez qui en plus de ses problèmes physiques, est aussi empêtré dans des histoires sur son transfert à venir ou pas de l'Atlético de Madrid. Ça fait beaucoup parler, donc à quel point ça le perturbe. De Paul n'est pas au niveau, j'ai dit tout à l'heure. On commence même à se demander si Dibu Martinez est protagoniste comme il y a 4 ans, en tout cas.
Il peut sortir, hein.
En fait, le problématique de Dibu Martinez, c'est qu'il ne sort jamais.
Il sort pas.
Donc c'est un gardien qui reste sur sa ligne. Donc les autres équipes l'étudient aussi. C'est vrai que dans les ballons aériens, ils sont prenables, hein, les Argentins. Lisandro Martinez est pas très grand, à part Couti Romero qui fait la différence. Lisandro Martinez, Martinez est pas bon. Alors qu'il avait fait un énorme match face au Cap Vert. Donc en Argentine, il y avait déjà des critiques qui étaient sorties. Pour la première fois depuis très longtemps, hein, face au Cap Vert, même lors de la phase de qualification avant la Coupe du Monde, il y avait des doutes sur est-ce que la fin allait être la même de la part de ces joueurs. Là, juste la problématique, c'est le physique et le niveau des joueurs actuels. Messi est trop seul.
L'Argentine donc passe tout près de prendre la porte face à l'Égypte. Qualification 3-2. Il est 20h20. On continue bien sûr, hein, sur cette rencontre assez incroyable qu'on vient de vivre.
Pour l'Argentine, c'est le tableau.
C'est Angleterre ou Norvège.
Ou Norvège.
C'est le tableau du bas.
C'est pas cadeau non plus.
Colombie, Angleterre, c'était pas sur le même type de match.
Oui, c'est ça. Il va falloir quand même faire mieux, c'est vrai. Salim nous appelle, on va le retrouver dans un instant. C'est l'After Live intégrale Coupe du Monde sur RMC. On revient tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
Il est 20h25 sur RMC. On vient de vivre un grand match de Coupe du Monde. La qualification de l'Argentine face à l'Égypte. 3-2 au bout du suspense avec un retour de 0-2 et une Argentine qui était au bord du précipice. On continue d'en parler avec Flo Gautreau, Daniel Riolo avec vous au 32-16 avec Georges Quirino, notre spécialiste de l'Argentine. Bien entendu, mais d'abord, une information politique importante, c'est un flash spécial sur RMC. On va donc retrouver Cyprien Pézeril. Bonjour Cyprien.
Bonjour.
Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle l'année prochaine.
Oui, elle l'annonce à l'instant. Elle est candidate à l'élection présidentielle pour la 4e fois. Une après-midi entière de réflexion. Son choix après la décision de la Cour d'appel qui l'a rendue de nouveau éligible, même si la justice l'a condamnée à porter un bracelet électronique parce que coupable de détournement de fonds publics. Ce soir, elle annonce aussi qu'elle se pourvoit en cassation. Elle estime qu'avec cette procédure, elle sera affranchie de tout port de bracelet électronique. Il n'y a plus de scénario dans lequel je ne serait pas candidate, assure-t-elle sur TF1. C'est pourtant un point qui fait débat, cette question du bracelet électronique. Beaucoup de juristes estiment qu'elle sera obligée de le porter. On verra dans les prochaines semaines exactement ce qu'il en est. En tout cas, ce soir, la candidate du Rassemblement National, c'est donc elle. Jordan Bardella reste en seconde ligne, lui qui était le recours de son parti. Marine Le Pen qui dit vouloir se lancer rapidement dans la campagne. Elle lance ce soir un site internet. Elle fera demain un premier déplacement dans la Sarthe. Et ce soir, elle se dit, je site renforcé par les épreuves.
Merci Cyprien. Allez, on revient sur ce Argentine-Égypte. On est dans l'after avec Daniel Riolo et Florent Gautreau. Donc le scénario, on le rappelle, l'Égypte mène 2-0. L'Argentine revient à 2-2 et marque le troisième but après 2 minutes de temps additionnel. Il y en avait 7 annoncés. On en a joué finalement 11 ou 12, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce temps additionnel. Et on vient de revoir une image, Daniel, que tu scrutais. C'est sur le troisième but égyptien. Finalement, peut-être qu'au départ de l'action, le troisième but argentin, excusez-moi, il y a peut-être une petite faute sur la récupération de balle argentine. Je pense qu'on va avoir droit à une belle petite polémique supplémentaire. Parce que
le ballon est dans la surface.
Exactement, sur la récup. Ton micro est éteint. Ouais.
Dans la surface, quand McAllister.
L'action part de la, de la surface argentine.
C'est une zone de jeu où il n'y a pas du tout le ballon, mais clairement, il le retient et il empêche d'aller jouer le ballon. Oui, donc je peux comprendre que.
Non, mais si tu veux, la similitude avec le but refusé aux Égyptiens est telle.
C'est pas exactement pareil.
La faute est moins flagrante.
Non, mais c'est une action avec ou sans ballon. C'est pas tout à fait la même chose. Après, il faudra qu'un arbitre nous dise s'il y a une conséquence de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est toujours pareil.
Oui, après, ça sera anecdotique.
C'est comme la faute qui annule le deuxième but avant le vrai deuxième but des Égyptiens. Oui, la faute, elle est à l'autre bout du terrain. Mais ça, moi, je me souviens, quand on faisait les débats sur la VAR, avant que la VAR n'existe, c'est exactement ce qu'on disait. Mais alors donc, vous allez reculer sur l'action d'avant, vous allez reculer au bout du bout pour venir annuler un but. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. Et comme j'ai toujours dit, moi, je reste un anti-VAR et je le suis depuis le début. Mais à partir du moment où ça existe, eh ben t'es obligé d'accepter ça. Et, tu peux pas critiquer ça. Tu peux pas.
Non.
Tu peux pas être pour le VAR et venir me dire ah ouais mais c'est un peu injuste. Ah oui mais c'est un petit peu contre le cours du jeu, contre l'esprit. Non. À partir du moment où tu as le VAR et que tu as une automatisation, que tu as de la technologie, l'esprit il est à la poubelle. Quoi qu'il en soit, l'esprit. Moi, à chaque fois qu'on me dit il y a le VAR, oui mais dans l'esprit du jeu. Non, tais-toi. À partir du moment où tu mets la technologie, il y a plus l'esprit du jeu. Vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment à Wimbledon? Sur les balles nettes avec le filet. Je sais pas si Eric Salieu a eu l'occasion de raconter ça. Mais comme la technologie domine, si l'arbitre constate qu'il y a lettre, il a pas le droit.
Parce qu'il y a eu. Ça n'a pas été annoncé par la machine.
Par la machine. C'est la machine qui domine sur l'homme. Et il y a eu une journée où il y a eu des problèmes avec la machine. La machine n'a pas signalé quelques lettres. L'homme le voyait. Et d'ailleurs, il y a eu des témoignages d'arbitres filet qui ont dit, pourtant, il y avait lettre et tout. On lui a dit non.
Tu sais quoi, Daniel, on va aller voir Eric Salio qui est avec nous à Wimbledon.
Et lui, peut-être, il va avoir plus de détails là-dessus.
Ça, il va pouvoir t'expliquer. Mais en plus de ça, il y a un très gros match à suivre.
C'est Djoko contre
Ogé Aliassime. Salut Eric.
Salut à tous.
Excuse-nous, on t'a un peu oublié, mais c'était une telle folie.
Non, mais le match était, je l'ai regardé.
T'as entendu mon histoire, Eric?
Alors, d'abord, fais-nous le point sur le match Djoko Ogé Aliassime.
Alors, on est à 1-7-0 pour Novak Djokovic. Un tie-break emporté 12 points à 10 et 4 jeux à 3 dans le deuxième pour Félix Auger-Aliassime. Je pense qu'on peut avoir un match assez long.
Alors, est-ce que tu as entendu ce que racontait Daniel sur les lettres?
Non, j'avoue que je découvre ça.
Bah, va t'informer. Alors, le mec, il est à Wimbledon, il sait pas ce qui se passe.
Bon, c'est pas très grave.
Renseigne-toi sur cette histoire de machine qui pouvait plus annoncer les lettres. Et quand l'homme a voulu corriger, on lui a dit non.
Ah oui, non, mais ça, c'est vieux, ça. C'est pas à Wimbledon.
Mais si, c'est passé là.
Peu importe que ça date ou que ce soit récent, explique-nous le principe.
Non, mais effectivement, alors, il y a eu deux problèmes. Il y a eu pendant les qualifs à Wimbledon. Il faisait trop chaud, donc le système ne fonctionnait pas. Okay. Donc ils ont interrompu les matchs pour rebooter le système. Mm-hmm. Et peut-être que ça fonctionne, et que c'est de ça dont tu parles.
Mais en tout cas, à un moment, les arbitres voyaient qu'il y avait net, mais comme la machine ne le signalait pas, on n'est pas revenu dessus.
Bon, c'est pas grave.
Et donc on annule tout. Puisqu'on ne fait plus confiance qu'à la machine.
Sortons de ce point. Tennis net ou pas net.
C'est le principe du VAR, quoi. Tu dois accepter la machine et il n'y a plus l'esprit. C'est l'idée que quand on me dit non, mais c'est pas dans l'esprit du jeu et tout.
Après,
non.
Je trouve ça pose un problème. C'est que je pense que dans les règles actuelles, il est clair et net que le but doit être annulé. C'est comme ça. La faute est réelle. Elle est en amont du but. C'est comme ça. Maintenant, on peut quand même se poser la question, même si Daniel, tu vas me dire ces questions-là sont terminées, on ne se les pose plus, pour, si tu veux essayer de comprendre le jeu et de savoir si le VAR a effectivement, annulé une injustice ou pas, tu peux quand même te poser la question de l'importance de cette faute dans la construction du but. Cette faute aurait empêché ce but? Alors,
ils vont faire un débat.
Oui, mais c'est important quand même.
C'est pas forcément ce débat-là dont tu parles, parce que là, tu rentres dans le cadre du noir-blanc que propose le VAR selon ce qu'expliquait Daniel, c'est-à-dire que malheureusement entre guillemets, j'allais dire la même chose, il ne faut plus parler d'esprit, il faut parler d'une réalité factuelle. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. Maintenant, c'est la règle. Moi, c'est pareil, je suis sur la même position que Daniel, je suis anti-VAR, mais j'accepte le fait qu'elle soit là. Au passage, j'aimais bien l'utilisation du VAR depuis le début, parfois sur des choses plus simples où ça allait très très vite pour décider s'il y avait corner, pas corner, 6 mètres, etc. Sur des choses très simples. Pour revenir à ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu appelles l'arbitre parce qu'il y a potentiellement une faute au début de l'action, c'est bien, et le Texier va voir. Moi, derrière, je suis à la place de le Texier, et par rapport à l'état d'esprit global des arbitres depuis le début de la compétition, je peux dire, oui, d'accord, j'ai vu le maillot
tiré. Mais j'annule pas le but.
Non, mais j'annule pas le but parce que le joueur argentin, là, je reviens carrément à une analyse de la faute. Le joueur argentin est en train de tomber, il a perdu le ballon, et en gros, si tu veux, le fait de tirer ou pas le maillot ne change rien.
Non, mais il marche sur le pied, je pense que c'est compliqué de pas l'annuler. Hein.
Bon, moi je trouve que, si tu veux, dans l'analyse du début de l'action qu'a faite le Texier visuellement, c'est-à-dire classiquement à l'ancienne, il a vu, comme plein de fois depuis le début de la Coupe du Monde, qu'il n'y avait pas faute, même s'il y en a une. C'est-à-dire que je veux te dire, par là, il a laissé jouer un truc. Oui. Toi qui joues au foot amateur, ça arrive 100 fois dans un match où, oui, il y a faute, en fait.
Faute,
mais en fait, tu laisses. Et on oublie. Maintenant, effectivement, comme il y a le VAR, il est obligé, lui, sinon, quand on va faire le débrief avec son superviseur, il va dire, là, t'aurais dû siffler. Là, t'aurais dû annuler.
Non, mais c'est pour ça que dans les règles actuelles du foot, c'était évident que le but serait annulé.
Maintenant, j'ai envie de te dire que, comme il y a eu le deuxième but égyptien derrière, un peu sur le même scénario, ça ne bouleverse pas, on va dire, l'équilibre, la logique du match. Ils ont quand même eu leur break. Et à 2-0, tu as quand même eu ton avance. Si t'es pas capable de la gérer, si les Argentins, eux, sont capables mentalement de le faire.
Ils ont refait un peu le Belgique-Sénégal.
Ouais.
Et il y a une seule certitude, Pierrot. C'est que François Le Texier, qui était très contesté en Argentine avant le début du match, il va y avoir aucun débat, je pense, après la rencontre s'il y a eu un arbitrage partial ou pas.
S'il avait fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire accord des buts néanmoins, là il y aurait eu toute une polémique. Là ça va, il va être.
On va revenir sur le match et sur l'émotion de ce match avec. On va écouter donc Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin.
No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás. ¿Qué sentís?
Je n'arrive pas à te poser de questions, mais qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, je suis désolé. Je suis trop ému. Quel groupe de joueurs, mon frère. Non, c'est incroyable, je dois partir, c'est désolé.
C'est ce que tu nous racontais tout à l'heure en ouverture d'émission.
Et Roberto Fabián Ayala, son adjoint, l'ancien défenseur central, évidemment, est arrivé au micro de la même façon. Hein. Il a réussi à parler 30 secondes et ensuite les larmes l'ont rattrapé. Et je sais pas si on a eu le temps de beaucoup le dire, mais Messi... c'est quand même une des images de la Coupe du Monde, est resté une dizaine de minutes en larmes le terrain avec ses coéquipiers. Il a été soulevé par tout le monde. Franchement, c'est des images qui resteront dans l'histoire du Mondial pendant longtemps. Les Argentins font la comparaison, ils disent, regardez, Neymar est parti en larmes de la Coupe du Monde, Cristiano est parti en larmes de la Coupe du Monde, triste, Messi pleure de joie pour
mais lui il est là.
Ah, tiens, Enzo Fernandez, deuxième réaction.
Bueno, no sé si fue la locura máxima.
Question, je ne sais pas si c'est la plus grosse folie que tu as connue avec ce maillot. Oui, c'est une chose de fou. Franchement, après le Mondial au Qatar, revivre ce genre de choses, c'est une folie. Vraiment, il faut que je félicite mes coéquipiers. On a un groupe phénoménal. On arrive toujours à se relever dans la difficulté, dans l'adversité. Il faut remercier mes potes et tous les gens qui nous supportent ici et en Argentine. Allez, un pas en plus. C'est possible de marquer des buts beaux dans le Mondial. Hein. Dans des situations comme ça, vous savez, ce sont mes coéquipiers qui me permettent de marquer. Je veux mettre juste l'accent sur mes coéquipiers. Il faut profiter des situations où on a de l'espace. Et j'ai eu la possibilité à la dernière minute. Il y a 4 ans, on s'est déjà passé depuis le Qatar. On profite d'un autre mondial. Essayez d'y croire à nouveau. Mais le football oublie parfois ce qui se passe derrière. Il faut continuer d'avancer. Voilà. Enzo Fernandez qui n'avait pas fait un bon match du tout d'ailleurs.
Hein, avant de marquer.
Ouais, il a mis le but sur le buzzer, très critiqué, même, je peux vous dire, en Argentine, depuis 2 matchs, et que certains espéraient pendant la rencontre voir sortir.
Hein. De l'équipe, hein.
Bah exactement, comme Julian Alvarez.
Offensivement, j'allais le dire, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, ils sont pas au niveau, Messi n'est pas au niveau pendant 70 minutes, et on a l'impression que là, en gros, sur leur, sur l'émotion, sur l'intention, sur l'intensité mentale, ils ont réussi à revenir à renverser le match. D'ailleurs, je vais juste dire un mot là-dessus, par rapport à Scaloni, sa gestion, c'est sur le banc à la fois parfois sans réaction et totalement au bord des larmes en permanence. Ils ont on avait parlé avec Georges déjà, ils ont une faculté pour moi à maintenir le cerveau émotionnel supérieur au cerveau rationnel, mais sur des années, sur un nombre de matchs. On dit souvent oui ça tient sur quelques matchs, on en a beaucoup parlé avec l'OM en disant on peut pas gérer ça comme ça tout le temps, on peut pas mettre de l'intensité émotionnelle aussi forte sur 10 matchs de suite, et eux il semble qu'ils y arrivent.
Oui, mais après tu peux quand t'es fort. C'est-à-dire que l'OM a explosé aussi parce que ça manquait un peu
parce que c'était moins bon.
Oui, voilà. Et donc c'est pour ça que moi je les trouve pas si alarmants que ça les Argentins.
Moi je les trouve alarmants physiquement.
D'abord parce qu'ils ont dominé leurs deux adversaires et puis parce que de toute façon ça fait 4 ans qu'ils fonctionnent comme ça hein.
Ouais, mais moi je les trouve quand même alarmants, je sais pas du tout, tu as raison.
Ils ont roulé sur tout le monde en qualif.
Je suis d'accord, techniquement.
Ils ont été champions d'Amérique du Sud.
Techniquement, mentalement et dans une Coupe du monde, ça représente un atout énorme. Mais je maintiens quand même que physiquement, et d'ailleurs je suis moins inquiet pour la France et l'Espagne. l'Espagne parce que physiquement ils sont plus forts et surtout ils ont de la ressource. Alors que là, quand tu sors du banc, là, j'ai vu qu'il a fait ses deux changements. C'est ça. Ben, il a même pas fait les cinq, hein, je crois, Scaloni. Bon, il y avait la prolongue qui
À la fin du match, il a fait rentrer. Ah oui, à la fin, joueurs,
il a mis Otamendi et tout. Non, mais à la fin, il a envoyé, mais ça voulait plus rien dire. Je pense quand même que il a moins de ressources aussi. Et voilà. Moi, mais physiquement, c'est un.
Dis-moi. En revanche, il y a quand même un truc, Pierrot, excuse-moi, c'est que en Argentine, il commence aussi à avoir le débat de est-ce que Scaloni n'a pas un peu du mal à sortir ses héros du Qatar. On a vu que effectivement, il n'a pas fait sortir Enzo Fernandez. Voilà. Il a fait confiance à Paredes aujourd'hui. Alors Paredes qui fait un bon match.
Comment il justifie cette sélection de Paredes, qui a été plutôt le meilleur au milieu d'ailleurs.
Ouais, Paredes, très globalement, c'est son joueur habituellement qu'il fait jouer devant la défense. C'est-à-dire que s'il ne l'a pas fait jouer jusqu'à maintenant, c'est juste qu'il n'était pas à 100% d'accord. physiquement. Il est arrivé blessé avec Boca sur le début de la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il a fait jouer.
Mais parce que ça change son système quand même. Almada, c'est plus un offensif.
Et De Paul, ça le met côté droit en plus.
Exactement, c'est pour ça que De Paul a peut-être pas fait un très grand match, De Paul peut être un des joueurs qui peut payer la facture en quart de finale s'il continue comme ça. Mais peut-être l'une des critiques qu'on peut faire à Scaloni, c'est que il n'a pas réussi, tout comme d'ailleurs pendant les qualifs, à intégrer du 109. C'est-à-dire que il a des joueurs comme Valentin Barco sur le banc que beaucoup réclament. Beaucoup réclament, mais là il va pas les faire rentrer maintenant en quart de finale sur les matchs aussi chauds comme Nico Paz également de Com.
Non, mais c'est pas temps de les voir dès le début, c'est de
les voir dans la rotation,
de les voir déjà à un moment du match quoi.
Mais là, même Lo Celso a fait un très bon match, tu sais, quand il y avait la rotation. Nico Paz, on le voit pas, Barco on le voit pas. Moi je suis d'accord, moi je trouve que
les joueurs sont des créateurs, ils sont les joueurs à l'effectif, il est bon l'effectif argentin.
Tiens, on va donner la parole à Salim au 32-16. Bonjour Salim.
Salut l'équipe, comment ça va?
Quel match, Salim, on s'est régalé, hein?
Ah, c'est un grand match. En tout cas, je savais que l'Égypte pouvait avoir son mot à dire parce que je connais un peu cette sélection. J'ai trouvé Flo un peu sévère avec l'Égypte. Moi, je pense que l'Égypte est quand même un sacré morceau, même si l'Argentine est le champion du monde en titre. Je pense que ce qu'a proposé Hossem Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, était assez intéressant. Alors, il a fait avec ce qu'il avait parce que l'Égypte n'a pas assez de marge par rapport à l'Argentine, dans le sens où, quand t'as Emem Rachoul qui se blesse à la mi-temps, qui est pratiquement ton meilleur joueur, et tu as Hassan qui s'est blessé et qui a demandé le changement, et que tu fais rentrer un Marmouche qui est jamais réellement entré dans cette Coupe du Monde et qui n'est pas
lui,
bon.
Lui, plutôt, les Égyptiens devraient se poser des questions parce que lui, franchement, qui est quand même un mec qui est à City, c'est quand même une star. Il a fait une Coupe du Monde catastrophique.
Et il en mange la feuille.
Ouais,
il y a une occasion.
Salah, même vieillot, est en bout de piste. Bon, on le voit à la saison qu'il vient de faire, tout ça. Mais au moins, il est allé, il a tout donné. Ce qui lui restait à donner, il l'a donné, Salah. Mais Marmouche, qui doit censé prendre la relève de la sélection, le nouveau pharaon, non, quelle déception.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des joueurs qui ont répondu présent, comme Zico. Qui a marqué le deuxième but, qui a été très très bon. Même au milieu de terrain, la Chine a répondu présent. L'arrière droit, Mohamed Hani, il a été très très bon,
très
franchement.
Bon, très bon.
Rien à dire sur lui. Moi, j'ai trouvé qu'il était valeureux. Ibrahim aussi en défense centrale.
Et Salim, tu connais bien cette sélection. Parle-nous d'Aïssem Hassan, qui est un joueur né en France, à Bagnolet, qui a été formé à Châteauroux, qui joue aujourd'hui à Oviedo, qui a été énorme sur les deux contre-attaques.
C'est l'un des rares binationaux. Il a même trois nationalités puisqu'il est franco-égypto-tunisien. Sa maman est tunisienne, son papa est égyptien. Il a choisi l'Égypte. C'est l'un des rares binationaux de cette équipe. Je sais même pas si c'est pas le seul. Faudrait vérifier. Oui, lui, il a commencé avec son entrée contre l'Australie. On l'a réellement découvert dans cette sélection d'Égypte. Et là, franchement, il a été très très bon. Malheureusement, il a demandé le changement. C'était compliqué à la fin. Et juste une petite anecdote. Le gardien Mostafa Chobir, l'actuel gardien d'Al-Ahly, son papa était le gardien durant le Mondial 90 de l'Égypte.
Tu fais bien de rappeler ça. On a eu quelques histoires rigolotes. Vous avez vu ce qui passe sur les réseaux avec les trois Égyptiens, Norvégiens, dont les papas jouaient, quoi. Le père Haaland, il y a Sorloth, et l'autre, c'est le défenseur. Moi, j'ai oublié le nom. Enfin, je trouve que c'est toujours touchant quand il y a des filiations comme ça en sélection, et quand les gens peuvent, à travers le temps, se rappeler les autres moments de leur sélection. J'aime bien ces histoires.
Et Daniel, le papa de Mostafa Chobir, est à l'origine de l'invention de la règle de la passe en retrait aux gardiens. Je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, parce que l'Égypte avait abusé de ça en 90, et ils ont ensuite inventé la règle de la passe en retrait. Le gardien n'a plus le droit de prendre le ballon à la main.
C'était aussi pour augmenter le rythme et le temps effectif de jeu. En fait, aussi. Il y a toujours un déclencheur.
Après, pour revenir concrètement à Chaubière, à Mostafa Chaubière, il a fait un match exceptionnel.
Moi, j'ai cru qu'il allait faire le Jésus tout le match. Ouais,
Il touche les ballons. Ouais, ouais. Franchement, il fait un très gros match.
Il a été énorme.
Et t'as tout à fait raison de souligner ce côté droit là. Enfin, même les deux défenseurs, Ibrahim qui est buteur et Annie, ont été exceptionnels. Et effectivement, Hassan. Après, c'est vrai qu'ils perdent deux joueurs. Enfin, notamment pour moi, l'un des meilleurs depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Achour. Ils ont pas eu de chance. Alors, je dis pas, ça change rien si tu veux au fait qu'ils aient été dominés, que les Argentins ont eu les occasions, les tirs, tout ce que tu veux.
Mais Hassan sort sur blessure aussi.
Hassan sort un peu plus tard et Achour dès la mi-temps. D'ailleurs, je pensais que c'était un petit peu un tournant. Bon, voilà, Salah est quand même plus le Salah prime, donc c'était un peu plus compliqué.
Merci Salim pour ton appel et toutes ces infos sur l'équipe égyptienne. On continue dans l'after live intégral Coupe du Monde sur ce incroyable Argentine-Égypte. Et puis bien sûr, à 22h, c'est Suisse-Colombie. La nuit de l'after continue. Nous aurons deux champions du monde invités dans cette émission après 21h. Patrick Vieira et Fabio Cannavaro. Restez bien avec nous. Et puis il y a le 32-16, bien sûr, pour débat de foot avec Daniel et Flo. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'after foot, l'after live, intégrale Coupe du Monde. C'est la nuit de l'after qui va se prolonger avec Suisse-Colombie à 22h pour désigner l'adversaire de l'Argentine, donc qualifié dans la douleur face à l'Égypte. Un match incroyable, spectaculaire, émotionnellement très fort. On a dit beaucoup de choses de ce match, bien sûr. On va parler des Bleus dans un instant avec Jean-Louis Tour. Mais d'abord, nous allons à Wimbledon pour la rencontre entre Auger Aliassime et Novak Djokovic. Eric Salio.
À 7 partout, Pierrot, à 7 partout entre les deux joueurs, puisque Félix Auger-Aliassime vient de remporter la deuxième manche, 6 jeux à 3. Et sachez que cette rencontre va se poursuivre avec le toit fermé. Il est que 19h40 et quand la juge arbitre est venue voir Djokovic pour annoncer sa décision, Djokovic dit, mais vous êtes complètement fou.
Mais il est infernal.
19h40. Il fait encore un temps magnifique et donc la décision est irrévocable.
Mais il est infernal, Djoko, quand même. Il peut accepter qu'on ferme le toit, ça va, non?
Mais il fait encore très beau, là. C'est tout à fait jouable. Il est que 19h40, Pierrot.
Bon, à 7 partout, ça peut nous emmener loin, hein, ce match. Hein.
Ouais. Ouais, oui.
Bon, Djoko, en tout cas, il est dans la veine de Messi. Hein. Il est toujours là. Il a un peu de mal par séquence, mais c'est un sacré champion. Hein.
C'est pour ça qu'il est dur à battre.
Avant d'aller voir Jean-Louis Tour à Boston, nous allons retrouver Xavier Grimaud qui a les compos d'équipe de Suisse-Colombie, le match de 22h. Salut Xavier.
Salut messieurs, salut à tous. Bienvenue à Vancouver. Effectivement, les compos sont tombés. Ouais, à Vancouver, exactement au BC Place. Très joli petit stade à taille humaine. Enfin, ça change un peu des immenses stades américains. On a les compos avec la peur qui était là pour les Suisses. Bah, elle est confirmée. C'est Johan Mantzambi, hein, la révélation de ce mondial, bah, qui s'est blessé au genou et qui est forfait pour cette rencontre. Pour la suite du mondial, on verra. Et il y a également Ruben Vargas, le deuxième meilleur buteur sur cette Coupe du Monde, qui lui est sur le banc. Et qui n'est pas certain de pouvoir rentrer. Donc ils font diminuer les Suisses. On aura Kobel dans les buts, Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez pour la défense, Granit Xhaka évidemment le capitaine et le guide de cette équipe au milieu avec Froler, Endoy qui sera sur l'aile droite. Ce sera Fabian Rieder, l'ancien Rennais, bon, qui est un peu tendre, on le connaît, qui remplacera Mantzambi. Il y aura Ardon Jachari qui remplacera Ruben Vargas et Brelen Bolo à la pointe de l'attaque du côté de la Colombie. Ce sera une équipe solide sans trop de blessés, si ce n'est évidemment l'attaquant qui s'est blessé, Cordoba, lors du dernier match. Ce sera Suarez qui le remplacera. On aura Vargas dans les buts, une défense avec Munoz, Sanchez, Lukumi, Mujica, Gustavo Puerta, Lierma et Arias au milieu de terrain, et les trois offensifs, Luis Diaz bien sûr, Luis Suarez l'ancien Marseillais en pointe, et bien sûr Rames Rodriguez le capitaine.
Ouais, merci Xavier. Ça va être compliqué pour la Suisse, vraiment diminué.
Pour moi Mantzambi, on a beaucoup parlé quand on était aux États-Unis là-bas. C'est vraiment la révélation, une des grosses révélations. Je l'ai appelé le tout puissant Mantzambi. Il est le facteur X, il est celui par qui tous les dangers offensifs arrivent. C'est vrai que voilà, l'absence de Vargas est embêtante aussi, donc c'est vraiment pour moi vraiment un très très gros beaucoup dur et donc je fais d'autant plus la Colombie mon favori de ce match.
Coup d'envoi, 22h.
Rien à ajouter.
Non. On va à Boston. Jean-Louis Tour est avec nous. Salut Jean-Louis.
Salut Pierrot.
Sous la pluie. Daniel, il est sous la pluie.
Salut Jean-Louis. Ah, il fait que pleuvoir aujourd'hui.
Jean-Louis en mode François Hollande.
Ça vous fait du bien un peu, ça vous rafraîchit.
Ah, exactement.
Bon, tu t'es régalé devant ce Argentine-Égypte.
Ah, magnifique.
Alors, on est là pour parler des Bleus. Les Bleus qui préparent donc leur quart de finale contre le Maroc tout en gérant la tempête autour de son capitaine Kylian Mbappé. Puisqu'on vous rappelle que Mbappé a été attaqué par la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria avec des propos racistes intolérables. Il lui a répondu, mais l'affaire prend une ampleur internationale. Ça ne s'arrête jamais, cette histoire, oui. Jean-Louis.
Ah oui, alors exactement. Alors donc c'est parti d'hier, vous avez suivi tout ça hier matin, Mbappé qui lui répond directement après discussion avec son entourage, ses proches qui gèrent son image, et derrière bah ça s'emballe au-delà de ce que peut vouloir Kylian Mbappé, c'est-à-dire que tout le monde s'en empare, président de la République française, paraguayenne, et donc il y a une nouvelle réponse de la sénatrice ce matin, et dans la foulée donc l'ONU s'en est mêlée, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a apporté son soutien à Mbappé, dénonçant des propos racistes et ignobles. Le parquet de Paris, de son côté, a ouvert une enquête après avoir reçu la plainte de la Fédé. Donc le pôle national de lutte contre la haine en ligne a donc reçu cette plainte. Là, on parle, s'il y a condamnation à la fin de l'enquête, de 45 000 euros d'amende et d'une peine d'un an d'emprisonnement. Et puis le Real Madrid aussi y allait de son communiqué, donc le club de Kylian Mbappé, pour lui apporter tout son soutien.
Non, mais c'est complètement incroyable. Alors après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau international. On a dit discuter un peu avant. Daniel, si elle est condamnée, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout.
Déjà, qu'il y ait un soutien total, c'est génial. Malheureusement, génial. Et c'est parfait, tout va bien.
C'est nécessaire
qu'il soit
au moins.
Soutenu, exactement. Qu'il soit soutenu d'abord par la Fédé, c'est très important. Mm-hmm. Par la ministre des Sports, très important. Si le président veut en dire un mot, c'est également important, tout va bien. Que la FIFA intervienne, pour une fois, on va dire du bien de la FIFA, très bien. Que l'association des joueurs, j'ai vu également une réaction. Tout va bien, impeccable. Maintenant, qu'on aille perdre du temps avec une procédure judiciaire, qu'est-ce que tu vas aller faire, une sénatrice d'un État souverain au Paraguay? Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette dame, après tout? On la laisse dans sa merde et dans sa haine. En plus, j'ai vu derrière qu'elle en rajoutait, refaire un truc et tout. Attends, mais qu'on oublie, c'est les gens inutiles, il faut les oublier.
Ce qui me gêne un petit peu dans la surréaction, enfin là, dans la surenchère, je vais dire judiciaire seulement, sur les réactions, je suis totalement d'accord, c'est que ça ne sert à rien, qu'on a l'impression que tout le monde veut se couvrir. Tu sais, tout le monde veut en faire un peu plus. Pour dire, vous voyez, nous on l'a fait, maintenant on est tranquille. Alors comme vous l'avez dit, ça n'aura aucune conséquence concrète. En revanche, je veux souligner quand même le courage, une nouvelle fois, je l'avais déjà dit dans une interview récente avant la Coupe du Monde de Mbappé, de la prise de position, parce qu'il aurait pu s'abstenir, laisser la Fédé le défendre et ne pas faire ce tweet pour, entre guillemets, rester dans sa compétition. Moi je trouve qu'une nouvelle fois, et même si c'est compliqué pour lui parce que derrière il y a cette haine en ligne, il a pris ses responsabilités, il a fait un tweet qui était costaud d'ailleurs, qui était assez bien écrit. Et donc une nouvelle fois, je le dis parce qu'en plus il y a des gens qui considéraient que j'étais un hater de Mbappé, donc j'ai découvert ça.
Non mais ça, tu as pas le choix, t'es soit un admirateur,
oui, mais
soit un hater.
Ça n'a jamais été le cas pour moi, donc j'ai
des gens qui refusent le débat,
qui n'écoutaient pas en fait bien l'after, mais c'est pas grave. Après j'ai peut-être pu dire qu'il courait pas assez pour défendre, ça oui, mais ça fait pas de moi un hater. Et en l'occurrence, donc voilà, je voulais insister sur le fait que Mbappé, qui est aujourd'hui un objet politique à part entière, qu'il le veuille ou non, il le veut. Apparemment, enfin, je veux dire, il l'accepte, il l'assume. Eh ben, il a pris ses responsabilités, il a fait un tweet qui est très fort. Bon, bah, derrière, le reste, effectivement, je pense que tout le monde se couvre et c'est moins important.
Je me pose quand même une question. Je sais pas ce que Jean-Louis peut nous dire là-dessus, parce que je pense qu'il gère ça très bien avec son entourage. C'est à quel point ce genre de tempête peut prendre de l'énergie. C'est-à-dire, ne serait-ce que prendre du temps. En interne, dans une Coupe du Monde, c'est à discuter avec ses conseillers pour savoir qui, quand, comment on communique, voir les réactions derrière, peut-être même qu'il a eu un coup de fil, je ne sais pas, hein, d'un responsable politique français, c'est pas non plus complètement impossible. Je me pose quand même la question, on sait ça, qu'il est solide, pas, le garçon.
Je pense que ça lui a pris une matinée hier à 4 jours d'un match, tu vois, c'est pas non plus le truc totalement contraignant, et je pense qu'après il a l'habitude, Mbappé, de faire avec le bruit qu'il y a autour de lui, tu vois, une fois qu'il a envoyé son communiqué, tout ce qui se passe derrière, je pense qu'il est habitué à gérer ça et que ça ne lui prenne pas trop d'énergie.
Après, juste un truc, je pense que à l'inverse, comme dit Jean-Louis, c'est assez gérable parce qu'il a du monde autour de lui, qu'il a l'habitude. Et dernière chose, s'il ne l'avait pas fait, je pense que ça l'aurait embêté. Je pense qu'il a envie que ce soit fait. Après, c'est passé, il va passer autre chose. Et je pense que s'il l'avait pas fait, il serait, tu vois, ça l'aurait peut-être psychologiquement plus embêté que les conséquences éventuelles, là, habituelles, disons, sur les réseaux sociaux, notamment.
Et pour finir sur les Bleus, Jean-Louis, il y a conférence de presse à 21h et entraînement dans la foulée, hein.
Ouais, c'est ça, là, dans quelques minutes, à la Bentley University, où les Bleus s'entraînent, donc il y a un point presse. Alors, on n'est pas vraiment sur une conférence de presse. Il y a trois joueurs qui vont passer quelques minutes, donc, devant les micros d'Arthur Perrault et Flo Germain, qui sont sur place. Et entraînement, dans une heure maintenant, un peu plus, donc, qui est fermé aux médias, mais on essaiera, bien sûr, d'avoir des infos et de savoir, notamment, si Tchouaméni s'entraîne. C'était pas le cas hier. Guy Stéphane a parlé d'un programme personnalisé pour lui. Donc, on aura une grosse indication s'il s'entraîne ou pas aujourd'hui.
Bon, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de surprises, hein. C'est soit Tchouaméni et Abt qui jouent et le reste de l'équipe on le connaît.
Et Doué-Barcola.
Doué-Barcola, il y a encore une question.
Il y aura toujours une question, je pense, parce qu'il y en a pas un qui se dégage vraiment, et je pense que Deschamps va s'adapter en fonction du profil, de l'état de forme qu'il voit sur les entraînements précédents. Et pour lui, il y a pas un écart énorme entre les deux, donc faut pas exclure que Doué puisse commencer.
À partir du moment où il a mis Barcola titulaire, mais y compris contre des équipes bloc bas, pour faire simple, ça veut dire qu'il considérait que les deux. Dans ce cas-là, il peut faire les deux. Avant on disait bloc bas.
J'aurais plutôt interprété ça comme un temps d'avance pour Barcola, puisque le profil de Doué.
J'avais fait un avis tranché d'ailleurs en disant que le fait que Doué puisse entrer et profiter du travail fait par les autres servirait. Je pense qu'honnêtement les deux sont interchangeables maintenant. Donc il n'y a plus de règles si ce n'est que celui qui entre bénéficie souvent du travail quand même fait par ce dame.
Merci Jean-Louis.
Allez,
n'oublie pas ton parapluie. Dans un instant, après la toute petite pause, nous allons retrouver un casting exceptionnel dans l'After Live Intégrale Coupe du Monde. Deux champions du monde, Patrick Vieira et Fabio Cannavaro, tout de suite.
RMC, l'After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Foot Intégrale Coupe du Monde avec Daniel Riolo et Florent Gautreau. C'est une grande soirée de foot. En tout cas, on a déjà vécu de grandes émotions avec ce Argentine-Égypte. Ça va peut-être continuer avec Suisse-Colombie, on l'espère.
Cette nuit, le
Belgique-États-Unis était
encore mieux. Le Mexique-Angleterre. Voilà,
je suis un peu ennuyé devant ce
Belgique-États-Unis. Mais bon, il était sympa. J'étais très surpris par la Belgique.
Alors justement, puisque tu en parles, je vais m'arrêter deux secondes.
Enfin, petite parenthèse, ensuite on accueille un grand champion.
Et moi, honnêtement, je défends la théorie que Trump a plombé la sélection US. Les voir aussi peu dynamiques, alors que depuis le début de la compète, ils étaient excellents.
Je pense qu'ils les ont plombés. La Belgique.
Et les Belges, on ne les a jamais vus aussi forts. Ils ont été surmotivés.
On ne les a jamais vus aussi forts parce que le sélectionneur a fait des choix forts.
C'est intéressant parce que Rudy Garcia était très clair.
Je suis d'accord.
Non, mais si tu enlèves ça et le pressing incroyable.
Tout le cirque a beaucoup tapé la tête.
Moi, je vais te dire, j'aime pas du tout Rudy Garcia et je le félicite parce que le début de match, la compo et les 20 premières minutes qu'ils ont infligées aux États-Unis, c'était remarquable. Je fais un tête à queue complet sur la Belgique. Je ne les voyais pas aller loin. Et en tout cas, ils ont été bons cette nuit. Mais bon.
Flo, Daniel, on accueille un grand champion, champion du monde 98, Patrick Vieira, est dans l'after. Bonjour, Patrick.
Bonsoir.
Salut, Patrick. C'est un honneur
de
t'avoir, Patrick.
On s'est vu aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, à New York.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Et parce que Patrick a été l'entraîneur de Max Chano.
De Maxime Chano,
on a quelqu'un en ligne qui sait réellement le niveau qu'il avait.
Alors Patrick, sache déjà que Max Chano fait toujours très très fort dans les nuits new-yorkaises. Il a été notre guide.
Je suis pas surpris. Ouais.
Patrick a aussi été l'entraîneur de Michael Olise, ça nous intéresse quand même plus. Hein. On va en parler, mais juste Patrick, un mot sur ce Argentine-Égypte que t'as dû suivre comme tout le monde avec une attention incroyable.
Non, mais c'était un match extraordinaire. Enfin, moi, j'ai vraiment pris plaisir à regarder le match. Déjà au niveau du scénario et puis après dans le contenu, j'ai trouvé ce match très intéressant. Beaucoup d'occasions. On a vu une belle équipe d'Argentine qui était toujours restée calme, même si vraiment à 2-0, je me suis dit qu'ils allaient passer à travers. Mais bon, quand Messi il est à ce niveau-là, c'est difficile de tenir.
Comment tu analyses la première heure, on va dire heure 10 de l'Argentine? Est-ce que c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que l'Égypte est devant, ou est-ce que tu leur vois des lacunes criantes?
Non, mais moi j'ai trouvé cette équipe d'Argentine qui manque quand même de vitesse. Je trouve que c'est une équipe qui est techniquement vraiment au-dessus de la moyenne, Mais après, je trouve que ça manque un peu de vivacité, de percussion et de vitesse, à part Messi qui est capable de changer de rythme. Après, trouver un joueur individuellement qui est capable de vraiment de changer de rythme dans les 30 derniers mètres, c'est pas évident. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient trouver l'énergie et pour pouvoir passer ce tour-là, quoi.
Ça veut dire que l'idée du miracle permanent, selon toi, a forcément une fin. Tu as du mal, au vu des scénarios, au vu de ce que tu viens de dire, à les imaginer aller jusqu'au bout, finalement.
Exactement. Franchement, avant la compétition, je pensais à une finale France-Argentine.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand je vois le match qu'ils ont fait contre le Cap-Vert, où ils ont quand même eu beaucoup de réussite, et je vois le match qu'ils ont fait encore ce soir... après, dans le foot, on sait que tout peut,
oui, bien
peut
sûr, passer, bien
tout
sûr,
peut arriver.
Bien sûr.
Ouais. Mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout par rapport à ce manque de vitesse, de jambes. Parce que je pense que quand ils vont affronter la France ou des équipes un peu meilleures comme l'Angleterre, je pense qu'ils auront quand même beaucoup plus de difficultés.
Il y a un pays que tu connais très bien et une culture que tu connais très bien, c'est l'Angleterre. Eux aussi ont eu droit à leur match plein d'émotions. Alors eux, tu sais à quel point ils attendent depuis des années d'enfin gagner quelque chose. Quel regard tu portes sur ce qu'ils ont fait depuis le début de cette compète?
Ouais, je trouve que déjà dans la phase de poule, ils étaient assez moyens. Ils avaient fait un premier match assez convaincant, mais après les deux matchs suivants, ils ont été un peu en dedans. Et je pense que cette équipe avait besoin d'un match référence.
Ah oui.
Et je pense que contre le Mexique, c'est le match qui va leur donner cette confiance qu'ils avaient besoin, parce qu'ils auraient énormément souffert. Ils sont passés à 10, mais ils ont réussi à passer. Et je trouve que ce match va créer ce côté où ils vont plus croire en eux. Et je pense que l'Angleterre, reste quand même. L'équipe qu'affrontera la France en finale, pour moi.
Ah oui, France-Angleterre en finale. Oui.
Okay. Non, moi, j'avais une question justement sur la défense, parce que sur beaucoup d'équipes d'ailleurs, on a remarqué qu'il y a des carences, et même sur le gardien, et même s'il a fait un bon match d'ailleurs contre le Mexique, je me dis toujours que ils vont se faire planter à un moment ou à un autre. Il y a trop d'incertitudes, trop d'hésitation. Est-ce que toi tu le juges aussi comme ça?
Oui, mais parce qu'ils ont un jeu qui est basé sur la transition, et après c'est vrai que sur l'aspect défensif, il leur manque peut-être ce joueur référence qui peut vraiment guider l'équipe. Mais je trouve que c'est des joueurs individuellement qui jouent dans des grands clubs, qui ont fait des matchs de Coupe d'Europe, qui ont quand même une certaine expérience. Moi, je pense que défensivement, même si c'est une équipe qui a des difficultés, mais c'est une équipe qui tiendra la route. Après, au milieu de terrain, je les trouve assez costaud. Devant, ils arrivent toujours à marquer des buts. Moi, je pense que
ils ont un duo qui porte l'équipe et qui a l'air d'être là pour marquer l'histoire du foot. Là, Bellingham, Kane, ils sont à l'instar un peu de Olise, Mbappé, ils sont là un peu pour marquer les esprits. C'est un atout aussi, ouais. Ça. Ouais.
Bien sûr, Bellingham, surtout qu'il y avait des points d'interrogation bien sur sûr. Lui, à savoir s'il allait être titulaire ou pas. Mais je pense que là, il est en train de mettre tout le monde d'accord par rapport à sa Coupe du Monde. Et lui et Kane peuvent être vraiment les deux stars de cette équipe.
L'histoire que tu évoquais, je me souviens qu'on en avait parlé également hier avec Julien Laurence notamment. L'idée de gagner dans la souffrance, c'est important pour un groupe.
Non, mais c'est vachement important parce que ça te donne beaucoup plus de confiance. Parce que je pense que le match contre le Mexique a quand même créé des liens assez forts entre les joueurs. Moi, je les ai vus célébrer comme jamais après ce match dans les vestiaires. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a ce match référence par rapport au résultat, mais aussi par rapport à la souffrance qu'ils ont eue, parce que jouer à 10, c'était pas évident, contre les Mexicains que j'ai trouvé plutôt bon. Ils ont souffert tous ensemble. Et là, ça va forcément créer des liens de solidarité pour le reste de la compétition.
Patrick Vieira en direct sur RMC dans l'After. Patrick, on va parler de l'équipe de France.
Oui,
parce qu'il y a un joueur
on lui a parlé de tout sauf des bleus pour l'instant.
Qui éblouit le monde, c'est Michael Olise. Tu l'as eu à Crystal Palace, c'était en 2023. Est-ce qu'à l'époque tu voyais déjà le joueur qu'il est aujourd'hui?
Oui, c'était un joueur qui était quand même au-dessus des autres par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à sa créativité, par rapport à sa qualité technique. Il avait passé une saison assez compliquée à Palace. Quand il est arrivé de Reading, il a eu quand même pas mal de blessures qui ont empêché de pouvoir progresser. Mais c'est quelqu'un qui a toujours su ce qu'il voulait, et puis c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et aujourd'hui, il est en train de voir à quel point il est doué.
C'est une aubaine pour l'équipe de France d'avoir touché ce joueur-là.
Ouais, justement, j'allais demander, est-ce que quand tu l'avais avec toi, parce que moi je dis toujours, mais enfin, il est tombé du ciel, quoi, pour la France, que ce gars-là décide, bah, tiens, je vais aller jouer pour les Bleus.
Bah, c'est... Non, mais il a toujours été passionné de l'équipe de France, il a toujours aimé l'équipe de France. Et moi, je me souviens avoir eu des discussions avec lui, et il y avait zéro doute dans sa tête pour la sélection qu'il allait représenter, quoi. Ça a toujours été l'équipe de France. Il a toujours su que il y avait peut-être plus de moyens de gagner avec la France que l'Angleterre, mais il n'y avait jamais cette question de doute dans sa tête par rapport à la sélection qu'il allait représenter.
Et lui-même savait qu'il pouvait, parce que la question même au départ, c'est tu peux jouer pour l'équipe de France. Il avait regardé, il savait qu'il pouvait.
Oui, mais lui, c'est quelqu'un qui doute pas.
Non, Daniel, c'était pas, il n'est pas dans ce sens-là, Patrick. Non, c'était pas dans ce sens-là que je faisais la question rapport au règlement, parce que ni son papa ni sa maman sont français.
Non, mais lui, il était convaincu qu'il jouerait pour l'équipe de France.
D'accord.
Même si jouer pour l'équipe de France, fallait quand même être très bon, et que lui, il était au début de sa carrière en première ligue. Mais dans sa tête, c'était vraiment zéro doute pour représenter l'équipe de France.
Et d'ailleurs, la preuve, c'est que il a préféré, alors qu'il était sollicité par d'autres sélections, faire le tournoi olympique, par exemple, avec les Bleus en 2024. Donc, ça confirme un peu ce que tu dis. Je crois qu'il y a un partenaire aussi, je sais pas si c'était à Palace ou avant, qui a témoigné là récemment dans la presse en disant que effectivement, il lui avait toujours dit qu'il voulait jouer avec l'équipe de France. Moi, j'avais une question sur son tempérament, c'est-à-dire ce côté un peu mutique, un peu très très calme, très très relâché. Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Et là, on a vu aussi une autre facette quelque part contre les Paraguayens, où quand ils sont venus le chercher, il a quand même su résister. Est-ce que ça, tu voyais déjà ça à Crystal Palace?
Oui, c'est quelqu'un qui est assez, assez réservé, pas timide, parce que quand on est en face de lui, il y a quand même une discussion qui est mise en place, et qu'il arrive à donner son opinion sans problème. Mais c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui ne parle pas beaucoup, mais... qui a une grande personnalité, et ça s'est vu sur le terrain, parce que quand faut répondre, il répond par rapport à ses qualités techniques. C'est pas quelqu'un qui va se cacher quand le match va être très compliqué. C'est quelqu'un qui est réservé, qui est calme, mais avec une très grosse personnalité et qui a peur de rien sur un terrain de foot, quoi.
Patrick Vieira dans l'after sur RMC. Si on revient sur la compète de l'équipe de France, c'est une des équipes qui a le plus impressionné, qui fait partie des 2-3 favoris. Qu'est-ce que les Bleus peuvent faire de mieux, Patrick? Qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Non, mais ce qu'on va leur souhaiter, c'est de continuer. Je pense qu'ils ont vraiment été très séduisants sur les matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment de voir l'atmosphère et de voir l'état d'esprit de l'équipe. Je trouve que c'est un groupe qui est vraiment soudé. Je trouve qu'il y a une très bonne ambiance quand je vois la façon qu'ils ont célébré aussi cette victoire qui fait vraiment plaisir à voir. Je trouve que même avant la compétition, il y avait peut-être des questions sur les égos des uns et des autres, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous mis ça de côté et que les Becs vivent vraiment très bien et qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à jouer ensemble.
C'est la qualité de Deschamps, ça, de savoir, parce que bon, nous dans l'after, je sais pas si tu le sais, mais pendant longtemps on a évidemment on constate à quel point il est fort pour construire un groupe et dans le management mental, mais le jeu, on critiquait le fond de jeu des Bleus, en tout cas moi pour ma part. Là on a l'impression que il y a les qualités pour le groupe, le vivre ensemble de l'équipe, on constate que tout va bien, et en plus cette année il a ajouté le risque du quatrième joueur offensif et un jeu plus attractif.
Oui, forcément, c'est la qualité de l'entraîneur, mais aussi je pense qu'il y a l'intelligence des joueurs qui fait que tout le monde est en train de mettre sa qualité individuelle au service du groupe, et à partir de là, avec la qualité qu'ils ont, ils arrivent à enchaîner les matchs et des belles prestations et des belles victoires. Je pense que quand on a Olité aussi dans son groupe qui épanouit le jeu comme il le fait, surtout quand il est dans l'axe, je trouve que c'est très intéressant pour les attaquants qu'on a devant, quoi. Je trouve que c'est une belle équipe de France qu'on est en train de voir.
Il y a une question qu'on se pose depuis quelques temps sur Deschamps et ce dernier, cette last dance, c'est ce choix de quatre offensifs, cette façon de vouloir sortir en beauté. Est-ce que toi, tu as aussi cette analyse-là, c'est-à-dire c'est la dernière compète et c'est pour ça qu'il tente quelque chose, ou tu te dis qu'il est pragmatique et qu'il se dit avec le réservoir de talent que j'ai, il faut que j'aille sur cette solution.
Il rigole,
Patrick. Non, je pense qu'il est... Non, je rigole parce que bon... Je pense qu'il est pragmatique. Il y a aussi la qualité des joueurs, mais je pense qu'il est en train de les mettre vraiment dans des bonnes conditions pour que les mecs puissent s'expliquer. Je trouve que il y a une génération qui est quand même extraordinaire. Quand on voit des joueurs dans les clubs dans lesquels ils évoluent.
Ah, on a un petit
souci qui est formidable.
Oui. Patrick, reste avec nous, on a encore beaucoup de choses à te demander, notamment on va voir si tu es d'accord avec Youri Djorkaeff qui estime que c'est un peu pauvre techniquement cette Coupe du Monde comparé à ce qu'il a connu lui. C'est un débat intéressant. Youri qui estime
Youri,
qu'en
tout cas il était caché par Infantino et pas tous les matchs.
Et puis on parlera de la suite de Patrick Vieira. Vous êtes sur RMC, c'est l'after, on revient tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Foot, intégrale Coupe du Monde avec Florent Gautreau, Daniel Riolo à 22h. C'est le coup d'envoi de Suisse-Colombie pour désigner l'adversaire de l'Argentine en quart de finale. L'Argentine qui a encore eu chaud face à l'Égypte dans un scénario un peu fou qui ressemble d'ailleurs à son match contre le Cap-Vert. On en a beaucoup parlé au début de l'After.
Encore plus de folie.
Encore plus de folie, ouais. Encore plus d'émotion. Des buts fantastiques, hein, quand ouais. même. Hein. Mmh, et des absolument. Très beaux buts, tiens. Alors, on est toujours avec Patrick Vieira. Patrick, avant de parler de toi, de ton avenir, juste un petit mot sur les déclarations de Youri Djorkaeff. On vient de dire qu'il y a des buts sublimes dans cette Coupe du Monde. Youri est l'invité des Nuits de l'After. Vous l'entendrez tout à l'heure. Il estime que le niveau technique est moins élevé qu'à son époque.
Mais quelle époque? En 98?
Je pense qu'il parle de toute sa carrière.
Alors, attends, je vais mettre juste un truc parce que je sais pas si ce dont voulait parler Youri. Il y a un truc et peut-être que Patrick pourra rebondir là-dessus. Moi, j'avais dit dès le début de la Coupe du Monde que certains milieux de terrain, puisque lui faisait partie des milieux de terrain techniques, Patrick, étaient moins impressionnants techniquement. Ce qui veut pas dire
qu'il y a
les
plus d'Iniesta,
Oui, mais c'est important parce que la salle des machines, c'est milieu de terrain.
C'est pas ça que Youri disait.
Apparemment, c'est plus global chez Youri.
Alors, Patrick, ton avis?
Non, mais Youri, c'est vrai qu'il a été un joueur très technique. Sa qualité, c'était vraiment avec le ballon, on va dire. Mais je pense que c'est un jugement qui est globalement un peu sévère, je trouve. Parce que quand même, je trouve qu'il y a encore des joueurs qui sont très techniques. Mais après, le jeu a évolué énormément sur l'aspect physique et athlétique. Le jeu va beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de transitions.
Oui.
Et à partir de là, si le jeu va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de qualité technique parce que le jeu est un peu plus basé sur le côté le box-to-box. On a le ballon, c'est les transitions offensives. Mais globalement, je trouve que c'est un jugement qui est un peu sévère.
Ouais, il y a des joueurs très techniques dans cette Coupe du Monde.
Mais là où Patrick a parfaitement raison, c'est que le jeu a tellement évolué que limite, oui, les transitions, oui, le côté athlétique, oui, l'intensité, la fameuse intensité qui d'ailleurs est moindre dans cette Coupe du Monde que en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Ça joue un peu moins sur l'intensité, sur les sprints à haute intensité dans la Coupe du Monde. C'est peut-être ça qui fait que parfois on se rend pas toujours compte des gestes techniques. Mais désolé, quand tu vois Messi avec l'Argentine ce soir, le centre de Lautaro Martinez pour la tête d'Enzo Fernandez, c'est un geste technique et on en a eu beaucoup des gestes. Les Mexicains l'autre soir, le centre, ça a peut-être l'air de rien, mais le centre taclé que fait Harry Kane sur le premier but de Bellingham, mais tout ça, c'est des gestes techniques. Je pense que l'avis de Djorkaeff est un peu sévère, mais tu sais, Patrick, parfois il y a des gens quand ils vieillissent, ils regardent en arrière et ils pensent toujours que c'était mieux avant. Tu sais.
Après, il y a deux choses. D'abord, sur ce que tu as dit, Patrick, sur les transitions. Je vais donner un exemple aussi d'une transition qui est très technique, c'est celle de l'Égypte sur le deuxième but, enfin sur le but qui a été refusé. Parce qu'avant qu'il y ait la transition, le double contact plus le petit pont et l'élimination que fait le joueur égyptien, c'est très technique. Et après, il y a un truc sur lequel je rejoins peut-être Youri, c'est une Coupe du Monde qu'on a nous beaucoup critiqué par rapport au fait qu'elle était à 48. Et donc cette densité d'équipe fait qu'on a vu aussi des joueurs moins forts techniquement. Et je parle même des gardiens, je l'ai dit dans l'after, il y a des joueurs qui sont moins forts techniquement. Donc c'est peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que forcément, comme t'as plus d'équipes, t'as un peu plus de déchets, notamment dans les équipes les plus faibles, et on s'aperçoit que ceux qui sont forts techniquement, comme les Argentins, font la diff aussi parce qu'en face il y a quelques lacunes.
Alors rendez-vous à une heure.
Ouais, je sais pas si je suis d'accord à 100% avec ça, parce que quand je vois la qualité d'équipe, par exemple du Cap-Vert, le match qu'ils ont fait contre l'Argentine, je les ai trouvés pas aussi faibles que ça. Je pense qu'il y a des petites nations. Après, il y a des côtés positifs d'avoir autant d'équipes à cette Coupe du Monde, c'est de découvrir aussi des nations, des joueurs. Et je trouve que le Cap-Vert, par exemple, a fait une très bonne Coupe du Monde. Mmh. Et je suis persuadé que dans le futur, on verra certains joueurs capverdiens dans un grand championnat européen. Quoi.
Patrick Vieira, champion du monde dans l'after, et Youri Djorkaeff, donc autre champion du monde à 1h du matin. On vous régale ce soir.
Hein. Ah, il sera là tout à l'heure, Youri. Ah, dommage. Bah, merde, je serais pas là pour débattre avec lui du sujet. Tiens, puisque tu faisais un lien entre, à travers cette discussion foot d'avant et foot d'aujourd'hui, t'as été, si je me trompe pas, le premier entraîneur à Strasbourg de l'ère Blouko. Ouais. Et tu n'es pas sans savoir que ça, que ce nouveau système pour diriger les clubs de foot est pas mal critiqué en France. Comment tu as vécu, toi, d'être l'entraîneur d'un club qui avait la maison mère à Londres et donc à Chelsea? La prise de décision, on savait pas toujours où elle était. Comment tu as vécu cette expérience-là à l'époque?
Ben moi, j'ai eu la chance, Daniel, tu sais, d'avoir commencé un peu avec avec Manchester City et avec Manchester City aussi qui ont un peu ces clubs un peu partout dans le monde.
Oui, c'est comme et ça que t'étais allé à New York City d'ailleurs, qui était dans la galaxie.
Exactement, ouais. Exactement. Et là, il y avait des choses qui étaient vachement cohérentes et il y avait des relations propres sur la construction de l'effectif, sur les décisions à prendre et que l'entraîneur faisait vraiment partie de ces décisions-là. Après Strasbourg, je pense que c'est des nouveaux dirigeants qui arrivent un peu dans le foot et qui ont peut-être du mal à savoir un peu comment ça se passe et surtout l'importance que l'entraîneur doit avoir dans une organisation. Et à partir de là, ça a été une aventure difficile dans l'aspect relationnel et c'était difficile d'entrer une équipe quand les décisions elles doivent être prises de Londres tout simplement quoi. J'ai trouvé ça dommage parce que Strasbourg c'est vraiment un très bon club avec vraiment des très bons supporters mais qui ont un peu du mal à comprendre la gestion du club actuellement et je partage cette incompréhension avec eux aussi.
D'ailleurs, on n'a jamais vraiment su comment ça s'était terminé. Est-ce que t'es parti? Est-ce qu'ils t'ont remercié? Rosenior a débarqué là. Comment tu l'as appris? Est-ce que c'était vraiment comme un accord ou pas, Patrick?
Oui, non, sincèrement, c'était comme un accord. Enfin, je veux dire, on s'est rencontrés, on a discuté. Ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils voulaient faire un peu dans le futur. Et puis, je me sentais pas pris en considération dans ce projet-là. À partir de là, c'était mieux de se serrer la main et que chacun continue son chemin. Ça a été une discussion qui a été assez rapide, assez courte. Mais après, quand on veut se séparer d'un entraîneur, on crée des situations pour pas qu'il se sente bien aussi, quoi.
Je sais pas si c'est comparable, mais pendant que tu parlais, je pensais à l'expérience à Nice. Là aussi, on avait le groupe Ineos. On a vu depuis à quel point leur gestion est souvent incompréhensible ou incohérente, mais là pareil, les décisions elles n'étaient pas prises à Nice en fait. C'est quand même bizarre tout ça aussi.
Non, mais les décisions elles étaient prises par les dirigeants qui avaient à l'époque à l'OGC Nice. Hein. Le problème de l'OGC Nice c'était à partir du moment où on rentrait dans une nouvelle ère où on voulait créer des actifs et puis on voulait faire du trading. Et pour faire ça, fallait un peu de temps et le temps malheureusement je ne l'avais pas. Mais les décisions, elles étaient prises à l'époque avec River et Fournier. Ineos a été plutôt très bien dans cette relation-là, quoi. Mais quand on part dans un projet et on veut faire du trading et qu'on passe dans un moment difficile où les résultats n'ont pas été bons. Malheureusement, les dirigeants, quand je dis les dirigeants, c'est vraiment Fournier et River, avaient pris la décision de se séparer de l'entraîneur, de moi. Et ça, c'est...
On va retrouver un peu
ses responsabilités.
C'est pas difficile aujourd'hui pour un coach. Donc là, je sais pas, tu vas nous dire dans un instant si tu es à la recherche d'un club, mais aujourd'hui, les coachs sont confrontés à une difficulté, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a quelques gros clubs, qui jouent quelque chose où c'est structuré pour la compétitivité, la performance. Et j'ai l'impression qu'il y a 70-80% des clubs aujourd'hui. Le projet, c'est de former des joueurs, de les vendre et d'être en gros les clubs sparring partners des gros, quoi. C'est difficile de trouver un projet où on voit une cohérence dans la gestion, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais il y a certains clubs qui ont besoin de vendre pour vivre, surtout en France par rapport aux difficultés des droits télé, aux difficultés des revenus. Alors pour vivre, les clubs doivent produire des joueurs et doivent les vendre. Je pense que ça c'est quelque chose de compréhensible. Après, c'est accepter que quand on fait jouer des jeunes joueurs, il peut y avoir des moments difficiles. Et en général, pour apprendre, faut faire des erreurs, et ces erreurs-là peuvent coûter des points, peuvent coûter des places au niveau du classement, et puis faut l'accepter. Et ça, c'est difficile à accepter pour certains dirigeants. Je trouve qu'il y a encore des projets très intéressants en France ou même en Europe, mais c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir un projet et c'est donner les moyens de réussir.
Et quand on a une carrière comme toi en tant que joueur et au compris aussi en tant qu'entraîneur, justement, est-ce qu'on n'a pas envie de dire de faire une croix sur les projets un peu compliqués par la les problèmes des droits télé, donc ça veut dire quasiment tous les projets en France deviennent compliqués et d'attendre le projet un peu financé, auto-financé presque, comme celui du Paris Saint-Germain, et d'attendre, il y a peu de place évidemment, mais d'attendre plutôt ces projets-là. On était en Italie avec Leonardo dans l'année et lui clairement il nous avait dit ça un peu. Dis-moi maintenant, en gros, si je replonge, c'est sur un gros truc qui est costaud, pas sur une aventure hypothétique où tu sais pas comment ça va finir, quoi.
Non, mais moi ce que je recherche vraiment, c'est un projet qui va se donner le temps de réussir. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui attendent et il y a très peu de place. Mais ce que moi je recherche vraiment, c'est un club où je peux m'épanouir parce que j'adore ce métier et j'aime ce métier. Et c'est vraiment d'avoir la même direction, de travailler tous ensemble, même des clubs qui ont besoin de vendre, qui ont besoin de faire sortir des jeunes au niveau du centre de formation pour les vendre. Peut-être aussi un projet intéressant. Ce qu'il faut, c'est accepter les difficultés qu'il peut y avoir durant la saison et puis voir comment ça se passe en fin de saison, quoi. Mais il y a des projets qui sont intéressants en France, il y a des projets qui sont intéressants en Europe.
Et par hasard, si Zizou sélectionneur fait appel à toi, tu y vas ?
Pardon ?
Par hasard, si Zinedine Zidane, sélectionneur d'équipe de France, te passe un coup de fil pour venir dans le staff, tu y vas ou pas ?
Mais parce qu'il est, il sera le sélectionneur. Ah, je pense.
Oui, Patrick, fais pas le malin. Tout le monde le sait, c'est bon.
Ça peut être bien.
Non, mais je pense que Zidane a son équipe en tête. Moi, je suis plus à la recherche d'un club pour le travail au quotidien que d'une sélection.
Donc aujourd'hui, toi, tu as envie de revenir sur un banc parce qu'on sait que tu as également goûté à l'expérience de consultant. Consultant, c'est quand t'as pas de taf, mais tu veux vraiment retrouver un banc. Ce métier te passionne.
Oui, non, mais l'objectif, c'est de trouver un banc, c'est de travailler au quotidien avec un club. Là, j'ai vraiment décidé de prendre le temps de bien réfléchir et de bien étudier les choix que je peux avoir. J'ai pas envie de sauter sur le premier club parce que je l'ai fait auparavant et ça m'a pas réussi. Mais j'ai cette envie-là de continuer à entraîner.
Dans quel pays, dans l'after.
Dernière question, dans quel pays ? Parce que France t'as fait, Italie t'as fait, Angleterre t'as fait, États-Unis t'as fait. C'est quoi les pistes ? Qu'est-ce que t'aimerais où finalement ?
Non, mais peu importe. Sincèrement, Daniel, peu importe. J'ai la chance d'avoir une belle expérience et que je maîtrise plusieurs langues. Ce que je veux vraiment et ce que je recherche, c'est vraiment une belle expérience où je peux m'éclater en tant qu'entraîneur. Et un beau projet et travailler avec des directeurs sportifs, des présidents qui ont une certaine confiance et qui ont laissé le temps de travailler.
Patrick, reste avec nous. Ta maîtrise de l'italien va être nécessaire dans un instant. Une petite surprise, voire une grosse surprise pour toi et pour tous les auditeurs de l'After. On revient très vite.
RMC, l'Afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'After Foot, intégrale Coupe du Monde. Daniel Riolo, Florent Gautreau. On a un casting 5 étoiles ce soir avec Patrick Vieira.
Casting de champion du monde.
Champion du monde. Et il y a un deuxième champion qui arrive, mais d'un autre pays.
Oui, Ballon d'Or.
Juste le temps de vous rappeler qu'à 22h, ce sera Suisse-Colombie et que l'Argentine s'est qualifiée dans la douleur face à l'Égypte. Patrick, nous accueillons le champion du monde 2006, Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro, dans l'After. Ciao, Fabio.
Buonasera.
Buonasera, Fabio.
How we can speak.
Ciao, Fabio.
Alors,
ciao,
évidemment.
Patrick, comme tu as été consultant, je t'invite à lui poser la première question. Et je traduirai. Vas-y, après, je m'en chargerai. Mais commence-toi.
Ciao, like Fabio. Buonasera. You can be my translator.
Non, Fabio, non ti preoccupare. Io dopo faccio la traduzione. La prima domanda te la fa Patrick.
Ok.
Alors, la première demande, c'est déjà par rapport à cette expérience de Coupe du Monde, comment lui, il l'a vécu. Parce que bon, après avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur, comment il a vécu cette Coupe du Monde en tant qu'entraîneur.
Sélectionneur de l'Ouzbékistan, on rappelle. Hein.
Quindi voilà, comment il l'a vécu.
La prima domanda che ti ha fatto Patrick è come hai vissuto te questo mondiale, perché ovviamente tutti sappiamo che hai giocato, che l'hai anche vinto, ma è la prima esperienza in panchina. in un mondiale. Quindi com'è stata questa esperienza?
No, è stata un'esperienza bellissima. Perché da calciatore tu sei concentrato tu su te stesso e quindi
quand non joueur, non soprattutto concentré su toi-même e tes performances.
Non vivi tanti momenti. Invece da allenatore me la sono goduta un po' di più.
E certo, entraîneur bizarrement j'ai plus vécu les
derniers. Eravamo una nazionale piccola, una nazionale che per la prima volta era al mondiale.
On était un petit
però
pays,
è
un pays
stata qui un'esperienza fantastica perché c'era un'organizzazione incredibile, ogni partita sembrava una finale di Champions League.
L'organisation, j'ai beaucoup aimé, tous les matchs étaient fantastiques, ce qu'on a disputé, et l'organisation était tellement huilée que chaque match, moi j'avais l'impression que c'était une finale de Ligue des Champions.
A livello personale, come allenatore, è stato molto, molto importante perché comunque preparare partite di questo livello ti fanno crescere come allenatore, come persona, e quindi è stata un'esperienza importante.
E come entraîneur, c'était valorisant pour moi, puisque j'entraînais une petite équipe, de préparer des matchs de ce niveau-là. Forcément, ça va me faire progresser, ça va me faire grandir en tant qu'entraîneur.
Alors, on va rester avec Fabio Cannavaro, bien sûr, dans l'after en direct. On va libérer Patrick Vieira, mais quand même, avant de partir, Daniel, on ne peut pas le laisser partir
sans une négociation importante.
On a un truc à te faire écouter.
Patrick, écoute, ça fait des années que je sais pas si tu le sais, mais qu'on a un jingle avec toi dedans, et évidemment ça nous fait marrer, mais sauf que on aimerait aujourd'hui, puisque c'est la première fois que tu viens dans l'after, que tu nous expliques qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit ça.
Très très compliqué, très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Non mais ça, j'ai Manu Petit qui me le ressort à chaque fois que je le vois. Et c'est vrai que c'est des moments qui marquent, quoi.
Et Patrick, j'espère que Manu, que tu te laisses pas faire et que tu lui ressors les siens de jingle.
Non, mais bon, ça fait ça fait partie de comment dire, je veux pas dire de la personnalité, mais c'est vrai que c'était un moment difficile d'explication, et quand tu rentres dedans, c'est difficile de s'en sortir après.
Ouais, c'est ça.
Tu sais qu'on a joué mille fois à essayer de la répéter. On n'y arrive jamais.
On a juste compris qu'il valait mieux jouer à domicile.
Patrick, c'est un moment unique. On te remercie pour ce moment, Patrick.
Patrick dans l'after. Merci beaucoup, Patrick Vieira.
Salut, Patrick.
Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, Fabio.
Ciao, Pat.
Et on enchaîne donc les légendes dans l'after. On est avec Fabio Cannavaro, donc sélectionneur de l'Ouzbékistan, qui a vécu cette Coupe du Monde de l'intérieur. Fabio, c'est important pour nous d'avoir l'avis des joueurs sur l'ingérence de Donald Trump dans cette compétition, qui a réussi à faire annuler une suspension. Comment vous, les joueurs, vous vivez ça? En plus, toi qui étais sélectionneur de l'Ouzbékistan qualifié pour cette Coupe du Monde.
Quindi la sua domanda si riferisce a quello che è successo ieri. Sicuramente l'hai visto, l'intervento di Trump per fare cancellare il cartellino rosso che aveva preso Balogun. Te, se ti devi immaginare giocatori in un mondiale, vedi una cosa simile, che reazione puoi avere?
No, mi viene da ridere.
Donc ça fait rire, ironiquement.
Conosciamo che comunque gli organi che decidono queste cose sono diverse dalla FIFA, sono diverse da tutte le organizzazioni. Io non so il motivo, quindi non posso esprimere la mia
je ne sais pas pour quel motif ils ont annulé ça, je vais pas donner mon avis, mais en tout cas on a bien compris.
Però è normale che quando senti una cosa del genere ti viene da ridere.
Quand on entend ça, il répète, franchement ça m'a fait marrer, mais vous avez compris que c'était très ironique. J'y vais moi pour la question. Fabio, questa domanda te la faccio io. In questo mondiale purtroppo l'Italia non c'è. L'ultima immagine positiva dell'Italia in un mondiale ce l'hai tu, questa immagine, sì. Ci sei tu sulla foto. Come vivi questa situazione del calcio italiano? Aspetta che devo fare la traduzione in francese.
Okay.
Donc je lui ai demandé la dernière image qu'on a de l'Italia alla Coupe du Monde, c'est lui qui soulève le trophée. Comment il vit cette situation terrible pour le foot italien de ne pas être au mondiale? Vai adesso.
È una situazione difficile perché comunque dal 2006 che non riusciamo ad avere grandi soddisfazioni.
Effettivamente c'è très difficile, on n'a pas une bonne sélection.
Mondiale, ma penso che sia un problema dovuto che durante gli anni d'oro
pendant les années d'or.
Riusciti a investire,
on n'a pas assez investi.
Et à créer un système autosostenibile.
Et à créer un système. Che intendi per un sistema autosostenibile?
Avevamo la fortuna di poter avere i stadi di proprietà delle società nel 90.
Donc il parle d'un problème de structure globale du foot italien autour des stades, la propriété des clubs et de leurs stades pour former et progresser les joueurs.
Invece abbiamo perso quell'opportunità. Il calcio europeo è cresciuto nel frattempo.
Le foot européen a progressé partout, mais pas.
La Premier League ormai è inarrivabile.
La Premier League est inatteignable maintenant pour
nous. E quindi è sicuramente una situazione difficile.
Ma ne vedi delle soluzioni? La soluzione verrà da un uomo, dalla federazione, da.
La soluzione è quella di creare un sistema. Come l'avete creato voi?
De créer un système comme il a été créé en France.
Mi dispiace dirlo perché è normale, da italiano sono un po' geloso.
Il est jaloux du système mis en place français.
Però avete, quando è giusto dire le cose, avete creato un sistema dove riuscite a tirare fuori giocatori di qualsiasi età, di qualsiasi ruolo, di qualsiasi.
La façon dont la France forme les joueurs et les sort au haut niveau est admirable.
E quindi bisogna ritornare a fare le cose che si facevano un po' prima.
Fabio nous dit que le système sera plus important que les hommes. Maintenant, les hommes sont importants. Qui doit être le sélectionneur de la reconstruction?
Par contre, Antonio Conte. Quand tu dis que l'important est le système, mais dans un système, les hommes, il y a qui sont importants. Secondo te, quel type d'allenateur deve venir adesso a prendere questa nazionale? Sicuramente andare agli europei, perché non può mancare di nuovo l'Italia.
No, ma io sulla qualità dei giocatori attuali, io penso che la squadra c'è, perché avendo Donnarumma, Tonali,
la qualità dei giocatori, secondo me, on l'ha.
Ci sono dei giocatori importanti dove hanno fatto on finali di Champions League, giocano nell'Inter, nel Milan, nella Juve, quindi la qualità c'è. Sicuramente è un allenatore che riporta la squadra a una competizione importante. Ma penso che al di là dell'uomo ci voglia, come ripeto, un sistema che funzioni.
Mais je répète, j'insiste, c'est vraiment le système fédéral dans son entier qui va être important plus que loi. On a beaucoup parlé du retour de Roberto Mancini. Est-ce que tu as entendu parler de ça et où on en est?
Il y a Conte aussi.
Abbiamo i nomi che escono per ora sono il primo, quello di Mancini, sarebbe un ritorno, quindi. E se no anche Conte si è sentito come nome. Che ne pensi?
Ma sono due allenatori straordinari, sono due allenatori di grande esperienza.
Donc, sono due allenatori
che in nazionale hanno fatto sempre molto bene. Però ripeto, se intorno a questi grandi allenatori non si crea un sistema che faccia crescere, diciamo, i giovani, che faccia giocare i giovani, che attiri di nuovo grandi sponsor nel nostro campionato, diventa difficile.
Et donc, oui, il a parlé au-delà du système également de faire, donc de recréer un football attractif dans lequel on aura également de l'argent et une économie qui se mettra en place avec des nouveaux sponsors notamment.
Je vais revenir, Fabio, sur la Coupe du Monde actuelle et sur les défenseurs et les défenses, parce qu'on pense toujours qu'une Coupe du Monde se gagne comme en 2006 aussi sur une bonne défense et avec un défenseur Ballon d'Or, on a un expert. Quelle équipe tu vois la meilleure à ce niveau-là? L'Espagne, la France, quelle équipe la plus forte défensivement?
Lui voulait parler del Mondial attuale e quindi è del settore difensivo, perché lui dice che un mondiale si vince anche con un sistema difensivo molto forte. Se tu prendi le squadre che ancora stanno in giro, che difensore metteresti in avanti a dire questa difesa mi sembra migliore?
Ma non.
Ti susi sulla linea.
Sicuramente la Spagna è quella che a livello difensivo sta impressionando molto.
C'est le système défensif espagnol est celui qui me plaît le plus en ce moment.
Per la questione come riescono a lavorare a livello individuale.
Comment ils arrivent à tous travailler au niveau individuel ensemble.
Però c'è Francia, Inghilterra, ma la stessa Argentina, anche se stasera ha ricevuto due gol.
Donc il a cité également la France, l'Angleterre.
Sono secondo me le squadre più solide.
Ce sont les équipes les plus solides défensivement pour moi. Donc le trio, il a dit Espagne, France et Angleterre.
Fabio Cannavaro en direct dans l'after. Fabio, tu sais que nous, à l'inverse de l'Italie, on va aussi changer d'entraîneur, mais on est dans une période faste. J'aimerais avoir l'œil de Fabio sur Zinedine Zidane, sélectionneur quand même.
Quindi lui sta dicendo che anche in Francia alla fine devono cambiare allenatore perché Deschamps se ne va. Arriva al 100% Zidane. Il tuo avviso su l'allenatore che potrebbe essere Zidane?
Ma sai, un allenatore che vince tre volte la Champions League,
un entraîneur qui gagne trois fois la Ligue des Champions,
per forza deve essere il candidato numero uno a sostituire
Deschamps. Il doit forcément être le candidat numéro un à la succession de Deschamps.
Ok. Non, mais c'est précis, concis.
La tua risposta è molto chiara.
Non, mais après, en France, il y a quand même un débat, même si Zidane est ultra respecté, de savoir si au Real, c'est surtout un management humain qu'il a réussi à merveille ou un tacticien.
Alors, è vero che lui sta completando la domanda, e visto che tu ormai sei diventato un CT di nazionale, non è il stesso lavoro allenare un club, allenare una nazionale?
No, è totalmente diverso.
C'est vrai que c'est un métier très différent, entraîneur de club et d'équipe nationale.
Perché in un breve tempo devi riuscire a trovare la formula giusta.
En très peu de temps, tu dois trouver une bonne formule quand tu es sélectionneur.
Però è anche vero che ci sono a volte meno pensieri.
In che senso meno pensieri?
A volte ti affidi ai giocatori.
Ah, et des fois il y a moins de tracas parce que le sélectionneur, il peut aussi se fier à la qualité des joueurs. Voilà.
Però sono due lavori molto stimolanti. Donc c'est sono due lavori che comunque
de rôles qui sont très stimulants.
È vero che ti fanno soffrire tanto.
Qui te
però allo stesso
soffrire.
Tempo quando vinci godi per sempre.
Mais quand tu gagnes, c'est une jouissance éternelle. Ma tu diresti che è più facile alla fine dirigere una nazionale o un club?
Vado a domandare ad Ancelotti.
Demande à Ancelotti, c'est la réponse de Fabio.
Alors que pourtant, je penserais que c'est plus facile en sélection.
Non. Io penso che ogni federazione, ogni nazionale ha i suoi pregi, i suoi difetti. È normale, anche in Uzbekistan, che per noi era la prima qualificazione, prima volta mondiale, e comunque la gente ci chiedeva di vincere tutte le partite.
Là plutôt il est revenu sur Ancelotti en le défendant, en disant qu'il avait la pression du résultat et même lui en Ouzbékistan lui demandait de gagner. Alors imagine au Brésil.
Juste un mot parce que pour nous Fabio Cannavaro, c'est la finale 2006 quand même, et je voulais juste revenir parce que j'avais lu Fabio que tu disais que ce match contre la France aurait pu mal tourner parce que vous étiez très tendu, très fatigué, et que en plus avec cette Panenka de Zidane, ça aurait été d'autant plus compliqué. Donc, quel souvenir tu gardes de ce match et est-ce que tu reviens sur ces propos en disant que effectivement vous avez un peu raté votre finale? Je recommence parce que oui. Daniel n'a pas entendu. Dis-lui quand même.
Vas-y, rapidement ta question.
Non, juste rapidement, la finale 2006, il a dit qu'ils avaient été tendus, fatigués, qu'ils avaient raté leur match en fait quelque part, ou l'avant-match contre la France.
Et tu as vu qu'il avait dit
ça déjà dans le passé. Et est-ce qu'il il redirait la même chose aujourd'hui?
Lui torna à la finale del 2006, quindi contre la France. E lui dice che aveva visto un'intervista delle parole tue dove dicevi che alla fine questa finale l'Italia non ha giocato bene perché eravate molto stanchi, e lui vuole sapere se queste parole ti li ricordi e mantieni questi discorsi che avevi.
Sì, io penso che noi quella finale 2006, la prima parte, giocammo molto meglio noi.
La prima parte di finale abbiamo mieux joué nous.
Ma nella ripresa la Francia venne fuori e giocò molto meglio.
Nella seconda période, ils ont été bien au-dessus de nous et effectivement on a terminé très fatigué.
Però penso che poi alla fine i rigori erano giusti e vincemmo noi.
E li abbiamo battuti meglio noi, dai, lo puoi dire.
Esatto. No, ma penso che una volta voi, una volta noi.
No, ma il noi era tu e io. Mi mettevo con te.
Le match arrive.
Oui, les pénalties, pardon, j'ai pas traduit. J'ai parlé des pénalties. Et il a dit, et les pénalties à la fin, c'était quelque chose de juste d'en être arrivé aux pénalties quant à la config du match. Et il a dit, les pénaux, il faut dire la vérité, on les a mieux tirés que les.
On va terminer en une minute. C'est toi, Daniel, qui va conclure avec Fabio Cannavaro.
Avec le petit jeu,
bien sûr.
Fabio, si per finire, facciamo, suppongo che l'hai visto mille volte sui social il gioco, sai, per scegliere un giocatore. Ti dico due giocatori e devi scegliere e eliminare uno. Va bene?
Mamma.
Allez, c'est parti, un diamant.
Dai, Del Piero o Zidane?
Uff, partiamo proprio così.
Sì, partiamo difficile, sì.
Ale è un mio amico, ma se parliamo di giocatore, Zidane, Zidane.
Zidane o Totti?
Uguale, sono due miei amici, ma erano due giocatori straordinari, ma penso che Zidane abbia qualcosa in più.
Ok, Zidane o Ronaldo? Ronaldo fenomeno.
Ronaldo.
Ronaldo Bergkamp.
Ronaldo.
Ronaldo Battistuta.
Ronaldo.
Ronaldo Ronaldinho.
Ronaldo.
Ronaldo o Cristiano Ronaldo.
Ronaldo.
E Ronaldo o Leo Messi.
Per me è sempre Ronaldo.
Sempre Ronaldo, le jeu finisce.
Hai visto,
no?
Che ce l'hai fatta.
Merci beaucoup, grazie mille Fabio.
Grazie Fabio.
Un abbraccio, grazie.
Grazie,
a tutti.
Grazie.
Merci beaucoup Daniel aussi pour la trad et vous retrouverez tout ça bien sûr sur rmc.fr dans très peu de temps. On parie très vite sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Yo-Yan Boubnov pour les codes de Suisse-Colombie.
Salut messieurs, je vais faire très court. 3,50 la victoire de la Suisse, 3,10 le match nul, 2,20 la victoire de la Colombie. Je vous propose la Colombie qui gagne avec les deux équipes qui marquent, ses côtés à 4,30 et la Colombie, pourquoi pas, avec un but de Luis Diaz à 4,10.
Allez, prono Daniel. Non,
la Colombie.
La Colombie.
Alors, attends, tu m'as dit c'est quoi la victoire de la Colombie?
2,25.
La 25, je prends, il n'y a pas besoin d'en
prendre. Et la Colombie,
Luis Diaz, c'est 4-10. Flo Gautreau, merci.
Ah, Luis Diaz, 4-10, je prends 4-10, Luis Diaz.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Flo, Daniel, on vous retrouve après la rencontre Suisse-Colombie. C'est parti dans un instant, les hymnes.
RMC, l'afterfoot. Intégrale Coupe du Monde.